Contactez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du quintet à Cagnes-sur-Mer. Pour gagner, il fallait jouer le 15, le 4, le 13, le 5 et le 6. 15, 4, 13, 5 et 6. Le 10 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03 et à cette heure-ci, vous le savez, c'est 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, les Maghrébins de France.
Nous sommes des fils d'émigrés, des enfants d'émigrés. On a notre physique maghrébin. J'ai pas besoin d'afficher ma carte d'identité française sur mon front.
Ils sont pas étrangers, ils sont français, parce que maintenant ils sont là depuis je sais pas combien de temps.
Quand on arrive en métropole, on s'aperçoit qu'on n'est pas français du tout, qu'on n'a strictement rien ici.
Ans d'histoire. En raison de leur nombre, de leur tradition, de leur religion, de leur langue et surtout des années de présence française dans leur pays d'origine, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens ne sont pas en France des immigrés comme les autres. Le temps qui passe, l'acquisition de la nationalité française et l'intégration de la plupart d'entre eux n'y changent rien. Les Maghrébins, plus que les autres étrangers, sont encore victimes d'un racisme qui vise aussi les immigrés de la deuxième et de la troisième génération, ceux dont les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents étaient pourtant déjà venus en France deux fois au XXe siècle. On était bien content alors de les voir traverser la Méditerranée en 1914 pour aller mourir dans les tranchées de Verdun et 25 ans plus tard, au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Marseille, dont l'animation est encore plus grande qu'en temps normal, voit passer chaque jour d'innombrables troupes coloniales venant volontairement lutter pour leur patrie et leur liberté menacée. Un régiment de tirailleurs algériens vient de débarquer et se dirige vers la gare. Le même navire a amené des spécialistes nord-africains pour participer aux travaux agricoles.
Gadet, bonjour.
Bonjour.
C'était l'arrivée en 39 à Marseille de soldats ou de travailleurs venus d'Afrique du Nord en France, où beaucoup sont morts pendant les deux guerres mondiales. Les Maghrébins, alors il en est question justement au début d'un livre, Les Maghrébins de France, dont vous êtes un des auteurs. Mais à l'époque, ces Maghrébins qui arrivaient d'Afrique du Nord, ils découvraient la France. Et la France était un pays qui comptait très peu d'immigrés originaires de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie, qui étaient d'ailleurs des colonies.
Disons qu'avant la guerre de 14, il y en a très peu, et c'est la guerre qui va les amener à voir la France, à la découvrir. Alors, ils sont déjà sujets français quand même. Hein. Mmh. Donc, ils ont découvert la France chez eux, en quelque sorte, et sans doute pas de la meilleure façon. Et au moment de la guerre de 14, ben, on va en faire venir un nombre assez important, puisque on hésite entre 150 000 et 200 000 soldats. Et pour ce qui est des travailleurs qui vont remplacer des Français qui sont mobilisés, c'est sans doute quelque chose autour de 70 000. Mais comme les gens tournent, en fait, c'est sans doute 300 000 à 400 000 personnes venues d'Algérie, Tunisie, Maroc qui ont connu la France.
Oui. Et d'ailleurs, qui sont morts, qui sont enterrés, j'y pense, parce que il arrive très souvent que des cimetières de soldats de la première armée française, par exemple du général Delattre, il y avait 200 000 quand même maghrébins dans cette armée, ce sont même les premiers à avoir franchi le Rhin en 1945. Bah, ces tombes sont souvent profanées, ce qui montre bien que vraiment, en France, certains ont oublié le rôle qu'ils ont joué.
Oui, alors, on a beaucoup oublié le sacrifice des maghrébins, parce que on l'a oublié, sauf l'an dernier, lorsque il y a eu les cérémonies commémoratives du débarquement de Provence, où le président Bouteflika a été invité, entre autres, et d'autres officiels d'Afrique du Nord. Je crois que c'était la première fois qu'on le prenait réellement en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, parce que les Maghrébins aujourd'hui qui sont français, ils sont pour beaucoup français par le droit du sang. Et ça, on l'oublie. Alors, on l'oublie tellement. Et peut-être qu'on va un peu moins l'oublier, puisque Rachid Boudjareb prépare un film avec Jamel Debbouze, avec Sami Nasseri et deux autres, sur justement ces tirailleurs qui vont libérer la France.
Alors, venu donc du Maghreb, de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, c'est-à-dire ce que le Maghreb, c'est-à-dire pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est ce qui est à l'ouest de l'islam, c'est-à-dire le couchant. Maghreb, ça veut dire couchant. Alors, ils appartenaient à des colonies françaises, jusqu'en 1962, 1956.
Oui, les statuts étaient un peu différents. Il y avait une colonie qui, finalement, a été ensuite la France, l'Algérie et deux protectorats. Mais enfin, pour la vie des gens, je crois que le changement n'était pas essentiel.
Et déjà, avant même leur indépendance, Tunisie au Maroc et Maroc en 56, Algérie en 62, une importante présence de Maghrébins immigrés. En fait, ils venaient uniquement pour des raisons économiques, parce que évidemment les conditions de travail, les salaires étaient meilleurs. Là, les entreprises françaises de l'époque y trouvaient aussi leur compte, je suppose.
Alors, je crois qu'il y avait effectivement le fait que les salaires étaient meilleurs, qu'il y avait beaucoup de problèmes de survie, parce que c'était une population qui augmentait beaucoup plus vite que la population française, et puis il y avait une France qui était à reconstruire. Et donc les sujets français étaient tout incités à venir, ce qui n'avait pas été le cas dans les années 30, où les colons pensaient que ça faisait baisser les salaires, ça risquait de faire monter les salaires en Algérie, Tunisie, Maroc, et donc essayer d'éviter qu'ils viennent. Donc c'est pour ça qu'il y avait à peu près que 100 000 Maghrébins avant la Deuxième Guerre mondiale en France.
Et pour la majeure partie des Maghrébins d'origine algérienne, très attentifs, on s'en doute, à ce qui se passait en Algérie à partir de 1954, c'est-à-dire la guerre en déchirés qu'ils étaient entre la France, où ils habitaient, pour ce qui concerne ceux qui s'y trouvaient, et le FLN qui se bat en Algérie, mais qui cherche aussi à mobiliser les immigrés. Écoutez ces Algériens vivant en France en 1961.
Est-ce qu'il est obligatoire de cotiser au FLN ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe si vous ne cotisez pas ?
Je ne sais pas, on est massacré. Enfin...
À votre avis, qu'est-ce que c'est que le FLN ?
FLN, c'est mes frères.
Le FLN, c'est des Algériens.
C'est des musulmans, c'est des Algériens.
Si un dirigeant du FLN vous disait, Mohamed, ce soir tu vas aller dans la rue, tu vas manifester, qu'est-ce que vous faites ?
Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais y aller s'ils me disent.
Et si vous n'y allez pas ?
Si je n'y allais pas, ils vont me tuer.
Vous savez que dans toute manifestation, il risque d'y avoir des victimes. Est-ce que ça vous fait rien d'être parmi les victimes ?
C'est-à-dire, c'est pas, ça me fait quelque chose, mais si on se fait tuer, c'est pour notre droit.
Dans ces propos d'Algériens de France en 1961, juste avant la grande manifestation qui va provoquer vraiment des ratonnades épouvantables, dont on a parlé d'ailleurs, on n'a pas parlé pendant 40 ans en octobre 61, mais là on voit bien que ces Algériens vivant en France sont tiraillés, sont déchirés, en fait, entre le FLN et la France. On ne sait pas très bien s'ils soutiennent le FLN par sympathie ou par peur.
D'abord parce que le FLN est très bien organisé en France. Il y a la Fédération de France du FLN qui est solidement organisée, solidement implantée dans les bidonvilles ou les quartiers très dégradés où vivent les Algériens. Parce que là, il ne faut plus vraiment parler uniquement de Maghrébins. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui reviennent régulièrement chez eux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent 2-3 ans en France et puis ils repartent chez eux et un frère, un cousin vient travailler. Une espèce de noria de travailleurs qui fait que donc ils sont beaucoup plus en prise sans doute avec ce qui se passe dans leur pays, qui va devenir leur pays.
Alors il y a d'autres Algériens qui vont se battre eux en Algérie aux côtés de l'armée française, mais dont descendent aujourd'hui beaucoup de Maghrébins de France, les Harkis. La plupart sont restés en Algérie en 1962, où beaucoup d'entre eux ont été massacrés après l'indépendance, tandis que 25 000 environ sont venus se réfugier en France, comme ces Harkis de ce reportage à Millau en 1962.
Un groupe de 600 Harkis est arrivé à Millau cet après-midi. René Reynaud s'y trouvait.
Au long du parcours, à Nîmes, à Béziers, comme à Millau, la Croix-Rouge et diverses associations locales d'entraide avaient délégué leurs membres pour apporter des boissons et des casse-croûtes à ces musulmans qui servirent sous notre drapeau et qui ont voulu aujourd'hui revenir en métropole. Charriant de lourds sacs, les hommes, pour la plupart, portaient encore la tenue militaire. Les enfants et les femmes, dans leurs vêtements colorés mais aux teintes délavées, traînaient de maigres baluchons et arboraient de pauvres bijoux de pacotille.
Quand on arrive en métropole, on s'aperçoit qu'on n'est pas français du tout, les métropolitains. On n'a strictement rien ici. On aurait été condamné à perpétuité, que ça aurait fait pareil.
On reviendra en arrière. Est-ce que ce choix que vous avez fait très tôt, d'ailleurs en 51, et puis ensuite pendant la guerre d'Algérie, est-ce que ce choix, vous auriez fait le même aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui, non. Hein. Faut pas rêver.
Et c'était Georges Kerouane, un ancien harki qui m'avait confié en 1992 à quel point son arrivée en France avait été difficile. Elle était d'ailleurs restée depuis. De tous les maghrébins de France, Michel Cadet, au fond, les harkis et même leurs enfants encore aujourd'hui sont ceux peut-être dont le destin était le plus tragique.
Mais évidemment, c'est quand même ceux qui ont qui subissent le plus un double problème. Dans leur pays, en Algérie, et encore, il y a peu de temps, maintenant c'est fini, apparemment, ils n'étaient pas bienvenus, c'est le moins qu'on puisse dire, ils continuaient à passer pour des traîtres, les enfants qui allaient en vacances, s'ils y allaient voir d'autres parties de la famille, se trouvaient là aussi plutôt mal, et en France, il faut bien le reconnaître, ils ont été très mal accueillis. D'ailleurs, c'est une des pages sombres de notre histoire, puisque... quel que soit ce qu'on peut penser de la guerre d'Algérie, on a entraîné des hommes du côté français, ils se sont battus, et on en a abandonné une bonne partie, et ceux qui sont arrivés, ben, on les a logés dans des camps. Et on savait pas trop quoi en faire, parce que c'était des gens qui étaient d'origine paysanne, qui arrivaient là avec leur famille, et on savait pas où les intégrer. Enfin, on savait pas, je veux dire, on n'a pas cherché à les intégrer. Et donc, on a cherché, en fait, à les expulser. On les a mis dans les campagnes, on a fait des bûcherons, etc. Et on n'a pas du tout eu le devoir de reconnaissance minimale qu'on devait avoir à leur égard. Et ça, c'est une page sombre. Alors, les enfants, évidemment, ils en ont souffert. Aujourd'hui, peut-être que il y a beaucoup d'associations de harkis, il y a des associations de harkis qui aujourd'hui demandent à avoir toute leur place. Mais c'est vrai que c'est tardif. Je pense aussi que la troisième génération commence à s'intégrer globalement à la fois dans la France et aussi dans la composante maghrébine de la France.
Qu'est-ce qui représente justement par rapport à l'ensemble de la population maghrébine de France? Il faut distinguer tout de suite Michel Cadet, ceux qui ont depuis acquis la nationalité française, et je crois à peu près 1,5 million de maghrébins. Enfin, qui sont des étrangers.
Alors, il y a à peu près 1,5 million de Maghrébins qui sont des étrangers, et comme c'est la part d'étrangers qui acquiert le plus rapidement en plus grand nombre la nationalité française, à l'heure actuelle, ils sont entre 47 et 50% des acquisitions annuelles, effectivement, je pense que le chiffre de gens qui sont d'origine maghrébine est double. Et effectivement, on sait pas trop comment parler, parce qu'une partie d'entre eux sont étrangers, les autres sont français, et je crois que on n'a pas pris l'habitude de les appeler français comme les autres. Or, ce sont des français comme les autres. Il y a des français d'origine italienne, il y a des français d'origine espagnole, polonaise.
Et on dit pas, il y a tant d'Italiens en France, dès lors qu'ils ont la nationalité.
Non, on ne le dit plus. On l'a eu dit, mais c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on ne le dit plus, et effectivement, il y a quelque chose, il y a là une injustice, parce que le problème n'est pas un problème de justice, mais il y a quelque chose d'incohérent, à ne pas accepter que des citoyens français soient des citoyens français, point.
Ça s'appelle peut-être tout simplement le racisme, Michel
Cadet. C'est possible. Hein.
Alors, on a évoqué les harkis, et évidemment, qui vivent, parce que c'était le cas en Algérie déjà, qui vivent essentiellement en milieu rural, ce qui n'est pas le cas d'autres maghrébins, tunisiens, marocains ou algériens, travaillant dans l'industrie, le bâtiment ou les services dans des conditions difficiles, comme ces Algériens des bidonvilles de Nanterre, au micro de Clara Candiani en 1963.
Dans ce bidonville de Nanterre, c'est une petite fille qui m'a servi de guide. Combien avez-vous d'enfants, madame?
7. Yeah.
Petit?
Oui, l'aînée, elle a 10 ans. Et 7.
Vous devez avoir très froid ici, non?
Oui, il fait froid et on fait demande sur demande pour avoir un logement. Il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire. Votre mari travaille?
Non, mais des fois il travaille, des fois il est arrêté. Quand il est en maladie, qu'il ne peut pas y travailler, il ne travaille pas. Et quand il se sent bon, santé.
Et quand il travaille, il gagne combien à peu près par mois?
Donc 65 000 par mois.
Comme quoi?
C'est maçon.
Maçon. Bon. Et toi, tu es bien chauffé?
Pas tellement.
Tu as des couvertures?
Oui.
C'est la nuit que tu as le plus froid ou pendant la journée?
Pendant la journée. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
بيت البلدان العامرين والبر الخليل. شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زالت خليل. يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيامك جميل. فيك وعد القدرة والأزمان وانت ما تدري.
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. شحال من مولع كان الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي.
Et vous entendez Daman El Harachi, Ya Raya, celui qui part, dit la chanson, et qui va vivre dans un autre pays, ne sera pas aussi bien que chez lui. Il y a une dimension de l'immigration que l'on comprend mal, Michel Cadet, parce qu'au fond, elle est spontanée, personne ne force les Maghrébins à venir en France, ils y viennent.
On ne les force pas tout à fait, mais d'abord, la situation économique les force. Oui. C'est ce que, quand j'étais étudiant, on appelait des migrations de misère, maintenant, ils appellent des migrations de travail. Et aussi, car ce qu'on va les chercher, hein, quand même. Moi, quand j'étais coopérant dans le sud tunisien, et j'ai vu les recruteurs de, je crois que c'était de Citroën, qui venaient dans les Ksour du Sud chercher leurs paysans.
Mais alors justement, ce que je voulais dire, c'est que dans la chanson, oui, au fait, les conditions de travail, je précise aussi, parce que dans l'archive qu'on a entendu avant, l'Algérien disait qu'il gagnait 65 000 francs. Il faut savoir qu'au tout début des années 60, quand on dit 65 000 francs, oui, on parle 60... en anciens francs, oui. Et c'est 650 francs par mois. C'est pas 6 millions et demi de francs de 1991 et je ne sais combien d'euros aujourd'hui. Alors oui, cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est vraiment, elle exprime la nostalgie de pays. Elle côté, c'est un arrachement aussi pour ceux qui quittent. On s'en rend pas compte.
Alors je dirais que c'est un triple arrachement. D'abord, ce sont des gens qui viennent de la campagne pour beaucoup. Hein, ce sont des, pour les Algériens, ce sont essentiellement des Kabyles. Pour les Marocains, ce sont des gens du Sousse, ce sont des Chleux. Et dans le sud tunisien, il y a aussi beaucoup de monde. Et ils viennent donc, ils ont un arrachement qui est celui d'abord d'une structure qui est très forte. Hein, une structure familiale, une structure du groupe qui est très forte. Ils sont arrachés au groupe. Ils se retrouvent dans un monde qui est très différent du leur. Ils rasent un peu les murs. Ils se retrouvent dans des conditions de travail difficiles et des conditions de travail et surtout des conditions de logement très très difficiles. On a parlé tout à l'heure du bidonville de Nanterre. On pourrait parler aussi de toutes les marchands de sommeil de la région parisienne à cette époque. Et effectivement, on vit à 10 par chambre, très mal. Alors très mal est peut-être un peu mieux parce qu'on est entre soi. Mais enfin, la misère entre soi. Et alors la deuxième chose, c'est qu'ils sont séparés de leurs femmes, de leurs enfants. Ce sont des hommes seuls.
Nous sommes avant 74. Oui, oui, oui. Il faut rappeler d'ailleurs aussi que c'est plutôt mal vu de partir. C'est presque une désertion là-bas en Algérie, au Maroc, en Tunisie.
Alors ça dépend.
Il y a même, je l'ai lu dans le livre auquel vous avez participé, la charte nationale algérienne qui en 76 disait que le retour au pays c'était une espèce de devoir national.
Oui, ça c'est après l'indépendance, oui. Hein, parce que avant l'indépendance, c'est pas nécessairement mal vu. On envoie quelqu'un faire de l'argent à n'importe quel prix et après il revient. Et effectivement, le problème, ce serait s'il revenait pas. Et par exemple, le cinéma évoque ça. Hein.
Vous avez consacré tout un chapitre au cinéma.
Oui, justement. Mais non, juste dans un film comme En cas de malheur, par exemple, de Claude Autant-Lara ou L'air de Paris de Marcel Carnet. C'est-à-dire des films qui parlent pas du tout du problème, mais on voit ces silhouettes de Maghrébins entassés dans des immeubles insalubres, etc. Et en particulier dans En cas de malheur, dans L'air de Paris, il y a vraiment une très très belle séquence sur l'exil maghrébin, sans doute l'une des plus belles dans le cinéma de cette époque. Et puis aujourd'hui, l'exil maghrébin est repris par des cinéastes. Yasmina Benguigui, par exemple, dans Inch'Allah Dimanche, évoque tout à fait cette période.
Ça reflète bien le cinéma, c'est ce que vous dites dans tout un chapitre, Michel Cadet. Au fond, l'évolution de l'état d'esprit des Maghrébins de France depuis le début, et de la façon aussi dont les Français le regardent.
Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce sont les Français qui regardent les Maghrébins, mais depuis les années 80...
Sans les voir souvent dans les tout premiers films, d'ailleurs.
Depuis les années 80, il y a quand même une montée de cinéastes maghrébins, d'origine maghrébine, ce qu'on appelle la génération beurre, qui sont d'extraordinaires cinéastes, de très très bons cinéastes, et qui leur redonnent aussi la parole, parce que la parole, elle est redonnée dans dans la présentation aussi.
Alors on aurait pu croire, Michel Cadet, qu'après l'indépendance du Maroc, de la Tunisie en 56, je le rappelle, de l'Algérie en 62, l'émigration vers la France se serait ralentie. Pas du tout, hein. Vous rappelez qu'il y a 410 000 maghrébins en France en 62, 620 000 en 1968. Elle est plutôt masculine et a la vocation de revenir au pays, c'est ce qu'on disait. Mais en 1974, pour cause de crise économique, la France décidait d'arrêter l'immigration aux frontières. France Inter, le 3 juillet 1974.
Des immigrés moins nombreux mais mieux accueillis, c'est le sens de la décision gouvernementale d'interrompre jusqu'en octobre l'entrée des travailleurs immigrés en France. André Postelvinet a précisé à Alain Trampolieri dans quel domaine cette mesure touchera les 4 millions d'étrangers qui vivent en France avec leurs familles.
Il s'agit de limiter les entrées des travailleurs étrangers et de leurs familles dans notre pays en fonction des possibilités d'emploi et des possibilités d'accueil. Et en parlant de possibilités d'accueil, c'est essentiellement ici encore aux possibilités de logement que je pense.
L'interruption de l'immigration, vous connaissez les raisons de la mesure, c'est une mesure économique, il s'agit de ne pas encombrer cet été un marché de l'emploi un peu difficile.
Et c'était l'arrêt de l'immigration en 1974, de toute l'immigration, c'est-à-dire, mais ça ne visait pas spécialement les Maghrébins, mais c'était les premiers visés, c'était le plus important, c'est touché particulièrement, pour cause ou pour des raisons économiques, on vient de l'entendre, et en même temps, leur arrivée a augmenté après 1974. Il faut peut-être expliquer pourquoi, oui, Michel Cadet.
Là, c'est la fin des Trente Glorieuses. Donc, les Maghrébins qui faisaient cette noria, ils vont plus la faire. Parce que s'ils partent, leur frère rentrera pas. Donc, ils vont rester. Mais alors, comme ils restent, ils peuvent pas rester seuls et le gouvernement lui-même s'en rend compte. Et à partir de là, on va permettre aux familles, c'est le regroupement familial, de venir les rejoindre. Et alors, ça va changer complètement le sens de l'immigration. Car c'est une immigration provisoire et elle va s'installer en immigration définitive. Des enfants petits vont être élevés en France. Des enfants vont naître en France, vont devenir citoyens français, d'autant plus que, comme souvent, le père étant né avant l'indépendance ou la mère de l'Algérie, il y en a un des deux qui était citoyen français. Donc, ils ont... Et oui. Donc, on va complètement changer l'immigration. L'immigration d'aujourd'hui, elle naît en 74. Avant, c'est une autre immigration, ce sont les mêmes hommes, hein. Ce sont les mêmes problèmes, mais ce ne sont pas les mêmes problèmes. C'est pas une immigration qui est faite pour rester, même s'il y avait déjà des hommes qui restaient. Et là, on a une nouvelle composante, finalement, de la nation française qui est en train de naître. Et c'est une composante.
Oui, une nouvelle immigration, d'abord parce que, effectivement, il s'agissait jusque-là essentiellement d'hommes venus travailler, destinés à repartir, et maintenant, ça va être une présence maghrébine qui se féminise et qui se rajeunit du fait des enfants qui rejoignent le chef de famille, c'est ça, Michel Cadet?
Ah, incontestablement, oui. Hein. Il y a une féminisation qui est maintenant, disons, à l'époque, vers les années, début des années 70, il devait y avoir quelque chose comme 10% de femmes, même pas. Aujourd'hui, on est entre 41-42, c'est-à-dire on approche de la norme. Hein. Donc là, et puis évidemment, comme c'est un groupement familial, ben les enfants sont là. Il y a un peu plus d'enfants à ce moment-là, nettement plus, même dans les familles, disons, d'origine maghrébine que dans les familles françaises traditionnelles. Aujourd'hui, les choses sont en train de s'équilibrer. Et donc une population jeune en plus. Et ça permet d'ailleurs aujourd'hui à la France de ne pas être en train de plonger comme ses voisins dans le vieillissement avancé.
Alors une population jeune et donc une immigration pérenne, hein, puisque beaucoup d'entre eux acquièrent la nationalité française. Je crois que 36% d'entre eux l'ont acquise à cette époque-là, au début des années 70. Comment d'ailleurs, il faut rappeler peut-être quels en sont les moyens. Comment c'est que ça se passe, Michel Cadet?
Il y a plusieurs moyens. Soit vous êtes né en France avec un parent français, et là c'est très facile puisque pratiquement tous les Algériens qui sont nés avant 62 peuvent dire qu'ils étaient français à un moment, au moment où ils ont eu par exemple leurs enfants à ce moment-là. Donc vous avez, c'est quasi automatique. Bon, je sais qu'aujourd'hui on a remis un peu cette automaticité en cause. Et puis d'autres effectivement par naturalisation, c'est-à-dire en demandant la naturalisation. Donc vous avez à 18 ans la possibilité, dans certains cas quand vous êtes né en France avec des parents français, etc., de demander la nationalité française. Mais maintenant il faut la demander. Avant elle était accordée automatiquement. Et elle est pas refusée, hein, en général. Et enfin sauf... Et dans l'autre cas, ben, par naturalisation, c'est-à-dire en demandant à devenir citoyen français. Alors, c'est quelquefois un débat, hein, dans certaines familles maghrébines qui n'ont pas envie que leurs enfants deviennent français. Oui. Seulement quand les enfants sont là et qu'ils ont toujours été là, ils finissent par devenir français.
Il y a aussi le mariage, tout simplement, vous le disiez. Hein, il suffit simplement de se marier avec pour un maghrébin, de se marier avec une française ou inversement, pour acquérir cette nationalité. Alors, il y a une chose qui est très intéressante et qui nous amène à la religion dont nous parlerons plutôt demain, mais qui est le fait qu'il y a plus de mariages de maghrébins avec des françaises que l'inverse. Vous peut-être rappeler pourquoi, Michel Cadet.
Oui, parce que lorsqu'on se marie avec une française, c'est un peu compliqué, hein. Lorsqu'on marie à une française qui est catholique ou juive, c'est licite. Pour un homme.
C'est la religion du livre.
Oui, c'est licite pour un homme, mais c'est pas licite pour une femme. Oui. Une femme doit, une maghrébine ne peut pas se marier dans ce cas-là. Je veux dire, au plan religieux, hein, le reste, c'est une autre histoire. Mais il faut faire attention quand on dit que il y a beaucoup de Français, enfin, ce sont bien sûr des Français, mais beaucoup de Français qui se marient avec des maghrébins ou des maghrébines ayant gardé la nationalité de leur pays, vous voyez, c'est très, très compliqué, sont souvent eux-mêmes d'origine maghrébine. Ce qui fait que, mais on n'a pas à distinguer, hein, mais c'est une réalité aussi, et que, bon, les mariages totalement mixtes existent, hein, mais ils sont relativement, encore pas très, très nombreux, hein.
Alors ça va poser de toute façon, puisqu'en plus il y a forcément naissance aussi derrière ces naturalisations, etc., ça pose un problème d'intégration, hein, dont nous parlerons demain avec vous. C'est évidemment aussi le problème religieux dont nous n'avons pas encore parlé, c'est aussi le racisme, tout ça, nous en parlerons donc demain avec vous. Michel Cadet, merci. Je rappelle donc que vous avez participé à un ouvrage collectif dirigé par Mohand Kehil, Maghrébin de France, de 1960 à nos jours, la naissance d'une communauté, un livre qui a été publié chez Privat. Vous avez également écrit L'écran bleu, la représentation des ouvriers dans le cinéma français, un livre édité aux presses universitaires de France.
Universitaire de Perpignan.
De Perpignan, excusez-moi, Perpignan, dont vous êtes, le directeur adjoint de l'université, c'est ça?
Et oui, je suis président.
De Perpignan. À lire également Histoire des Français venus d'ailleurs, de 1850 à nos jours, de Vincent Viette, un livre publié chez Perrin, dans la collection Timpus. Et puis vous avez entendu une archive pâtée de 1939, une vidéo disponible chez Montparnasse Édition, collection Le Journal de votre année. À noter enfin qu'un documentaire consacré à la 380, c'est complètement en dehors du sujet, mais nous en parlerons nous-mêmes bientôt, sera diffusé sur la chaîne Planète ce soir à 20h45, je le dis, parce que nous consacrerons bien sûr une émission bientôt à cet avion géant. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Briand et bien sûr la réalisatrice Anne Tobila. Demain donc.